Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous ouvre nos cœurs, non seulement nos cœurs, mais nos oreilles aussi, pour que nous puissions écouter sa parole. Vous savez, frères et sœurs, il y a un principe important, maintenant, un principe important qui régit le monde du travail aujourd'hui. Que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public, il y a un seul principe qui régit le monde du travail aujourd'hui. C'est la productivité, c'est la rentabilité. Partout où vous irez. Productivité, rentabilité. Et si un collaborateur, si un ouvrier, un travailleur n'est plus productif, n'est plus rentable, il devient moins intéressant pour son patron. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Et le patron ne va même pas chercher à savoir pourquoi tu ne travailles plus comme avant, pourquoi tu n'es plus productif comme avant. Le patron, au contraire, va chercher à se débarrasser de toi. Ça, c'est la réalité du monde du travail aujourd'hui. Vous savez, quand j'avais des problèmes de santé, un jour, mon chef, mon supérieur, est venu me voir au travail, parce que un jour j'étais là, 3 jours j'étais en arrêt maladie, 4 jours j'étais là, 8 jours j'étais en arrêt maladie. Je ne produisais plus comme avant. Mon chef est venu me voir gentiment. Il m'a dit, Marcel, il te reste encore combien d'années pour ta retraite? Tout de suite, j'ai compris tout de suite qu'il voulait me pousser gentiment vers la porte de sortie. C'était clair. Pourquoi? Parce que je n'étais plus rentable, je n'étais plus productif comme avant. Mais ce matin, avec l'aide du Seigneur, nous voulons méditer sur un récit d'un maître qui s'inquiète pour son serviteur malade. Un patron qui souffre. Et ce patron souffre pourquoi? Parce que l'un de ses travailleurs est malade. On aimerait qu'il soit nombreux, ce genre de patron. Le titre de notre message ce matin, c'est l'inquiétude d'un maître pour son serviteur. L'inquiétude d'un maître pour son serviteur. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centurion là-bas, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront, de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est la parole du Seigneur, prions. Seigneur notre Dieu, à l'image de Moïse, qui a dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir ton peuple d'Égypte ?» Et ce matin, Seigneur, je me place à tes pieds pour te dire aussi, qui suis-je pour que je puisse me placer devant ton peuple pour lequel tu as payé un grand prix? Le prix qui a coûté la vie de ton bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, saisis-toi de moi comme tu as fait à Moïse. Ouvre le cœur de tout un chacun de nous, afin que cette parole puisse prendre place dans le cœur de ton peuple. Au nom de Christ, notre Sauveur. Amen. L'inquiétude d'un maître pour son serviteur. Je pense qu'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, il y a des patrons dans la salle, il y a des chefs, des supérieurs dans la salle, des chefs d'équipe, des chefs de service dans la salle. Je pense que chacun de nous connaît qu'est-ce que c'est avoir dans son équipe un collaborateur qui ne donne pas le meilleur de lui-même. On sait qu'est-ce que ça voudrait dire. Mais dans la Bible, dans le passage que nous venons de lire, ce passage nous parle d'un centurion. Certaines versions c'est centurion, d'autres versions c'est centenier. C'est la même chose. La Bible parle beaucoup de centurions. On les retrouve dans plusieurs récits de la Bible. Dans notre passage ici, le passage que nous avons lu, nous voyons qu'il y a un centurion tout au début du ministère de Jésus-Christ qui manifeste sa foi en Jésus-Christ. Et plus tard, si nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 27 et le verset 54, nous voyons encore à la fin du ministère de Jésus-Christ un autre centurion qui se mettait à la croix, près de la croix de Jésus-Christ. Et ayant vu tout ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est mort, comment la terre a tremblé, les événements qui se sont passés tout autour de ça, ce centurion, la Bible dit, ce centurion fut saisi d'une grande frayeur et a proclamé tout haut, assurément cet homme Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Au début, il y a un qui a manifesté sa foi en Jésus-Christ et il y a encore un autre centurion à la fin du ministère de Jésus-Christ qui a confessé, qui a proclamé, qui a reconnu que oui, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Et le récit de ce matin, comme nous l'avons lu, se passe dans une ville qui s'appelle Capernaum. Capernaum, si nous lisons très bien la Bible, nous verrons que c'est cette ville où Jésus avait proclamé un jugement terrible. Cette ville a été l'objet d'un jugement terrible de la part de Jésus-Christ. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 11 et le verset 23, Jésus a dit ceci concernant cette ville. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non! Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Une ville où Jésus a dit vraiment tout ce que vous avez vu et vous ne croyez toujours pas. Tous les miracles que je fais dans cette ville et vous croyez toujours pas. Franchement, si tous ces miracles ont été faits à Sodome et Gomorre, Sodome subsisterait encore. Mais la foi qui attire l'attention de Jésus vient d'un païen, d'un non-juif qui habitait cette ville de Capernaum. La foi qui attire l'attention de Jésus vient d'un gentil, qu'on les appelait un gentil, c'est-à-dire un païen, un non-juif qui habitait Capernaum. Et ce païen, il était centurion, un officier militaire dans l'armée romaine. Un centurion ou un centenier, c'était un officier militaire romain. Certains disent que c'est l'équivalent d'un capitaine aujourd'hui dans l'armée française, à peu près. Il était un officier militaire. Et pour cela, ce matin, il y a 4 points que nous voulons partager ensemble, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier point, c'est l'amour d'un maître pour son serviteur. Le deuxième point, une foi qui attire l'attention de Jésus-Christ. Une foi qui attire l'attention de Jésus-Christ. Le troisième point, le centurion s'humilie devant Jésus-Christ. En deux mots, l'humilité du centurion. Hein, le centurion qui s'humilie devant Jésus-Christ. Et enfin, le quatrième point, le centurion reconnaît l'autorité de Jésus-Christ. L'amour d'un maître pour son serviteur. Le verset 5 et le verset 6 nous disent ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le verset 6, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Tout de suite, on peut se poser une question. Mais pourquoi ce patron, pourquoi ce centurion est-il préoccupé par la santé de son serviteur? Pourquoi il est si préoccupé par la santé de son serviteur? Entre guillemets, je reviens sur mon cas. Quand j'étais en arrêt maladie pendant 2 mois, mon chef ne m'a jamais appelé. Jamais. Sauf une fois. Il ne s'est jamais soucié de ma santé. Sauf une fois, il m'a appelé. Non pas pour savoir si j'allais mieux. C'était juste pour me poser la question. Marcel, alors, tu reprends quand le travail? Je lui ai dit, mes chefs, commence d'abord par demander si je veux bien. C'est le monde d'aujourd'hui, le monde du travail d'aujourd'hui. Mais le cas de ce centenier, le cas de ce patron qui a des travailleurs chez lui, des ouvriers chez lui, il se soucie de la santé de son serviteur. Alors pourquoi est-il si préoccupé par la santé de son serviteur? Parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, sans rendre compte à qui que ce soit. C'est lui le patron. Il n'avait de compte à rendre à personne. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Si les travailleurs, les serviteurs, son serviteur ne pouvait plus travailler, s'il n'était plus productif, mais il était libre. Il pouvait bien se débarrasser de lui. C'est lui le patron. Il pouvait bien se débarrasser de lui. Mais il ne l'avait pas fait. Il ne l'avait pas fait. Frères et sœurs, il n'y a aucun doute, nous n'avons aucun doute que ce centurion aimait profondément son serviteur. Il avait de l'amour pour son serviteur parce qu'il était prêt à tout mettre en œuvre pour sauver la vie de son serviteur. Il a tout fait pour l'aider. Pourquoi? Parce que ce serviteur a trouvé de la place dans son cœur. Parce qu'il le portait dans son cœur. Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il avait de l'amour pour son serviteur. Et il les portait non seulement dans son cœur, mais dans sa maison aussi, parce qu'il habitait chez lui. Ce centurion est un homme plein d'amour, plein de compassion. Et les Juifs même le considéraient comme une personne digne qui aimait la nation juive. Il avait même construit une synagogue. Si nous lisons dans Luc chapitre 7, ne cherchez pas, je vais lire pour vous rapidement. Dans Luc chapitre 7, à partir du verset 4, il est dit ceci, ils arrivèrent donc, les Juifs arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est que c'était quelqu'un de cœur, il avait de l'amour en lui. C'est lui qui a bâti la synagogue et les Juifs disent qu'il est digne, il mérite que tu puisses aider son serviteur. Ce centurion, ce militaire, ne demande rien à Jésus-Christ pour lui-même ou pour ses besoins ou pour ses problèmes. Il va vers Jésus-Christ et il ne demande rien pour lui-même. Alors, il avait des besoins, sûr et certain. Il avait des problèmes aussi dans sa vie, sûr et certain. Mais il ne demande rien. Mais par amour pour son serviteur, il intercède. Il intercède pour lui et demande à Jésus d'intervenir en sa faveur. Bien-aimés, nous voyons par là un bel exemple d'amour. Un bel exemple d'amour. Et nous pouvons même dire, c'est une prière d'intercession qu'il a adressée à Jésus-Christ. Il a prié en faveur de quelqu'un qui était dans le besoin. Ce centurion a prié auprès de Jésus pour quelqu'un qui était dans le besoin. Il a plaidé sa cause à Jésus-Christ. Vous savez, l'attitude de ce chef militaire est un bel exemple pour nous. Nous devons des fois oublier nos problèmes. Nous qui sommes enfants de Dieu. Nous devons des fois oublier nos besoins et porter par amour le fardeau des autres et les présenter auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'exemple que ces militaires, un païen, nous donne ce matin. Par amour, dans nos prières, le mardi, dans nos cultes de famille, dans nos cultes personnels, des fois, oublions nos besoins, nos propres besoins, et portons le fardeau des autres et les présenter aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu fais cela, si nous faisons cela, nous exprimons l'amour vis-à-vis de nos bien-aimés. Deuxième chose, la Bible ne dit rien concernant ce serviteur. Peut-être ce serviteur, pas peut-être, ce serviteur ne savait même pas que son patron est tenté d'intercéder pour lui, de plaider sa cause. Vous savez, ça fait toujours... Bon, ça réconforte d'entendre un frère, une sœur qui te dit, « Ah, mon frère, j'ai prié pour toi. » C'est encourageant. Des fois, là où tu es, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Et ce serviteur ne savait même pas que le centurion, son patron, plaidait sa cause auprès de Jésus. Que nous puissions vraiment être animés de cette pensée, de cet esprit-là, de prier pour les autres et d'oublier nos fardeaux C'est très important. La Bible dit que par amour pour nous, Jésus-Christ intercède nuit et jour en notre faveur. Il le fait par amour pour nous, parce qu'il nous aime. Ce serviteur était malade. Des fois, nous aussi, nous sommes malades spirituellement. Je ne sais pas si les mots s'est dit, mais bon, comprenez la pensée. Des fois, nous sommes malades spirituellement. Nous trébuchons des fois. Nous chitons des fois. Mais Christ est là pour nous soutenir. La Bible dit, s'il vous arrive de pécher, vous avez un avocat auprès du Père. Christ intervient toujours pour nous. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous, nuit et jour. Nuit et jour. Dans Romains chapitre 8, le verset 33 à 34, nous lisons ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà ce que notre Seigneur fait pour nous. Des fois, nous ne le savons pas, mais Christ est là. Des fois, nous sommes malades spirituellement, mais Christ intervient à chaque fois auprès du Père pour nous. Et dans nos faiblesses aussi, le Saint-Esprit nous soutient. Le Saint-Esprit nous soutient. Parce que des fois, nous ne savons pas ce que nous devons demander. Mais la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà un bel exemple que ce soldat romain nous montre ce matin. Portons les fardeaux des autres par amour et avançons avec ce fardeau devant Jésus-Christ notre Seigneur. Le deuxième point rapidement, une foi qui attire l'attention de Jésus-Christ. Au verset 10, la parole nous dit ceci, « Après avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme était rempli de foi et sa foi était centrée sur la personne de Jésus-Christ. Ce qu'il y a de remarquable, c'est quand il exprima sa confiance en Jésus-Christ. C'est ça qui est remarquable. Il dit, « Seigneur, tu n'as qu'à dire un mot et mon serviteur sera guéri. » Il a dit que « Seigneur, tu n'as qu'à dire un mot et mon serviteur sera guéri. » Il ne pouvait pas avoir cette conviction dans son cœur s'il n'avait pas la foi en Jésus-Christ. Il ne pouvait pas avoir cette conviction dans son cœur s'il ne croyait pas vraiment en Jésus-Christ et lui dire que Seigneur dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Sa foi se distingue, comme on a dit, parce qu'elle est placée avec confiance et complètement en Jésus-Christ. Et cette foi crie au secours à Jésus-Christ, non pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. Même pour quelqu'un d'autre. Et Jésus dit, Je n'ai jamais trouvé une telle foi en Israël. Jésus trouva chez lui, en lui, une foi si grande qu'il n'a pas trouvé parmi le peuple de Dieu. Jésus s'étonne parce que ce centurion, il était païen, il n'était pas juif à l'époque. C'était un païen, un non-juif. Et pourtant, il a montré une foi plus grande que tous ceux que Jésus a trouvés jusque-là en Israël. Alors, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui a provoqué l'étonnement de Jésus-Christ? Jésus s'étonne de la foi de ses militaires parce que ceux qui devraient avoir la foi, c'est-à-dire le peuple juif, Jésus n'a pas trouvé cette foi en eux. Et ceux qui ne devaient pas avoir cette foi, c'est-à-dire les païens, Jésus a trouvé la foi en eux. C'est ça qui a étonné Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ, dans Matthieu 11, 23, nous l'avons lu, a dit, « Et toi, Capernaum, si tous les miracles qui ont été faits chez toi, dans cette ville, ont été faits à Sodome, Sodome subsisterait encore. » Il n'a pas trouvé cette foi en Israël. Plus loin dans Matthieu chapitre 8, verset 26, vous verrez que Jésus dira à ses disciples, « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Homme de peu de foi. Les mêmes disciples dans Luc chapitre 17, verset 6, les mêmes disciples ont demandé à Jésus-Christ, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur leur dira, « Si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à ce sycomore, « Déracine-toi dans la mer et il vous obéirait. » Jésus savait ce qui allait se passer. En tant que Dieu, Jésus ne pouvait pas s'étonner parce qu'il savait tout ce qui allait se passer. En tant que Dieu, rien ne pouvait le surprendre parce que rien n'est caché devant sa face. Il sait, il connaît d'avance toutes choses parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il est à la fois homme et pleinement Dieu. Mais en tant qu'homme, Jésus a pu avoir faim. En tant qu'homme, Jésus a pu avoir soif. En tant qu'homme, Jésus était fatigué. Et en tant qu'homme, Jésus pouvait s'étonner aussi de la foi de ce centurion. Mais ce qui est important, chers frères et sœurs, c'est pas la grandeur, la taille de la foi, mais ce qui est important, c'est la qualité de la foi. La qualité de la foi. La foi véritable. Et la foi de ces militaires a attiré l'attention de Jésus-Christ et cette foi était agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6 dit ceci, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car c'est lui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. » Et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi de ce centurion était une foi véritable, et cette foi a plu à notre Seigneur, parce que c'était une foi agréable. Voilà ce qui a attiré l'attention de Jésus-Christ. Le troisième point, c'est le centurion s'humilie devant Jésus-Christ. L'humilité de ce chef militaire, de cet officier militaire. Cet homme ne s'approche pas de Jésus-Christ avec orgueil. Je suis commandant, je suis chef, c'est moi qui dirige. Il ne s'approche pas de Jésus-Christ de cette manière. Il s'humilie et confesse sa petitesse, si on peut dire cela. Il confesse sa petitesse devant Jésus-Christ en disant, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, que tu viennes chez moi à la maison. » Entre parenthèses, Jésus était citoyen à l'époque d'un territoire qui était occupé par les Et du point de vue humain, humainement parlant, cet officier militaire, il avait le pouvoir. Il pouvait parfaitement donner l'ordre à ses militaires, à ses soldats, d'aller chercher Jésus et le ramener chez lui. Il pouvait le faire, il en avait le droit, parce qu'il était responsable. Mais il n'ordonna pas cela. Il n'a pas ordonné cela. Il va plutôt chercher Jésus. Lui-même va chercher Jésus et aller vers lui. Par ses gestes, rien que par ses gestes, nous voyons déjà l'humilité de cet homme. Il s'est humilié devant Jésus-Christ. Deuxième chose, quand il s'adresse à Jésus-Christ, il ne dit pas « Mon Seigneur n'est pas digne que tu viennes ». Il ne dit pas ça. Que, non, 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 Jésus, mon serviteur qui est malade n'est pas digne que tu ailles chez lui. Non, il dit « C'est moi qui ne suis pas digne que tu puisses venir chez moi. » Il s'humilie, il s'abaisse devant Jésus. Malgré son rang social, malgré sa position sociale, il a remarqué quelque chose en Jésus-Christ qui l'a poussé à s'humilier, à se rabaisser devant le Seigneur et à dire « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Troisième chose de l'humilité de cet homme, ces fonctionnaires, quand nous observons très bien sa manière de s'adresser à Jésus-Christ, comment il s'adresse à Jésus-Christ? La Bible dit qu'il appelle Jésus-Christ Seigneur, et il appelait Jésus-Christ Seigneur à deux reprises. Au verset 6, il dit « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Lui qui est un officier, mais il appelle Jésus Seigneur. Nous voyons par là aussi son humilité. Et au verset 8 aussi, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Nous voyons aussi par là son humilité. Il s'est humilié à deux reprises devant Jésus-Christ en l'appelant Seigneur. Il s'est senti indigne de recevoir Jésus, non seulement à cause de la tradition juive qui interdisait les juifs d'aller chez les païens, parce qu'à l'époque, la tradition juive, à l'époque, les juifs se considéraient comme le peuple le plus saint, le plus pur, donc ils ne peuvent pas aller chez les païens qui sont un peu dans les ténèbres. Non, ce n'est pas à cause de cette tradition juive qui interdisait un juif d'aller dans la maison d'un païen, mais c'est parce que il était conscient de son état spirituel. Il était conscient de ses péchés, conscient de la seigneurie de Jésus-Christ de guérir son serviteur. Rien que cela. Il était conscient de son état. Il s'est vraiment reconnu pécheur, indigne et ne méritait pas d'être en présence du Fils de Dieu. Et cela nous rappelle la pêche miraculeuse. Dans Luc chapitre 5 et les versets 5 à 8, nous verrons comment Pierre a réagi face au Seigneur. Il avait à peu près la même attitude que le centurion. Luc chapitre 5, à partir du verset 5 à 8, la Bible dit ceci. À partir du verset 4, « Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit au Seigneur, « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. C'est à peu près l'attitude que le centurion a vue. Comme centurion, Pierre s'est senti aussi indigne d'être en présence du Fils de Dieu. Le centurion s'est senti aussi indigne d'être en présence du Fils de Dieu, compte tenu de son état spirituel. Cet officier militaire, ce fonctionnaire, est resté humble. Il s'est approché du Seigneur avec confiance et humilité. Et bien aimé, c'est de cette façon-là que nous devons nous approcher de notre Seigneur. Reconnaître notre état et avançons avec humilité vers notre Seigneur. Quelle attitude adoptons-nous quand nous nous approchons de notre Seigneur? Mais la Bible nous exhorte. Comment nous pouvons nous approcher de notre Seigneur? Et dans Luc, dans Hébreux chapitre 10, le verset 22, la Bible nous exhorte à ceci. Hébreux 10, le verset 22, je vais lire pour vous. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà comment nous pouvons nous approcher du trône de la grâce de notre Seigneur. Voilà l'attitude que nous devons adopter quand nous voulons nous approcher auprès de notre Seigneur. Une attitude d'humilité, une attitude de reconnaissance. Qui nous sommes? Comment je suis? Et nous approchons humblement auprès de notre Seigneur. N'aspirons pas à ce qui est élevé, dit la Bible, mais laissons-nous attirer par ce qui est humble. Si les centurions ne voyaient que son rang social, sa position sociale, ils n'allaient pas s'humilier devant Jésus-Christ. Si les centurions se voyaient qu'il est le plus intelligent, le plus sage, le plus gradé, ils n'allaient pas se rabaisser devant Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne soyons point sages à nos propres yeux. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. N'aspirons pas à ce qui est élevé, mais laissons-nous attirer par ce qui est humble. Le centurion s'est laissé attirer par ce qui était humble. Le quatrième point, rapidement, chers frères et sœurs, le centurion reconnaît l'autorité de Jésus-Christ. Il a reconnu l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a l'autorité, a la force. C'est lui qui a l'autorité, a la puissance. Et c'est ce qui a été dit ce matin, le frère l'a dit ce matin. La force se trouve qu'en Jésus-Christ. L'autorité, la puissance ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le centurion a reconnu l'autorité de Jésus-Christ, d'abord en l'appelant Seigneur. Le fait de l'appeler Seigneur, il a reconnu l'autorité de Jésus-Christ. Il a reconnu que Jésus était plus puissant que lui. On voit très mal aujourd'hui Emmanuel Macron venir appeler le frère Jean-Pierre Seigneur. S'il appelle Seigneur aujourd'hui, c'est que vraiment, il a reconnu à notre frère Jean-Pierre quelque chose qui est extraordinaire, qui le surpasse. Mais ce centurion, ce chef militaire, a appelé Jésus-Christ Seigneur Parce qu'il a reconnu en lui quelque chose qui était au-dessus de lui. Qui était au-dessus de lui. Ce centurion avait une profonde compréhension de l'autorité de Jésus-Christ. Parce qu'il arrive même à établir un parallèle entre l'action de Jésus-Christ et l'autorité militaire. Il pense qu'il est inutile que Jésus vienne chez lui. Et il dit un seul mot suffit pour guérir son serviteur. À une seule condition, il suffit que Jésus donne un ordre. Il suffit que Jésus donne un ordre. Parce qu'il savait que Jésus a cette autorité. S'il donne un ordre, ça va se faire, ça va s'accomplir. Je dirais même, ça entre parenthèses, je dirais même, ce centurion a compris, pas besoin, Seigneur, que tu viennes chez moi. Pas besoin des incantations qui durent des heures et des heures toute la nuit. Pas besoin de hausser la voix. Mais il suffit seulement de dire un mot, de donner un ordre, et la chose va s'accomplir. Ce militaire a compris cela. Il est dit au verset 8, « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il fait. » Il était conscient, convaincu de la puissance de la parole de Jésus-Christ. La puissance se trouve dans la parole de Jésus-Christ, nulle part ailleurs, pas dans la voix de quelqu'un qui crie, pas dans ceci ou de cela. Mais lui, il a compris que la puissance se trouve dans la parole de Jésus-Christ. Et il supplie Jésus-Christ que, Seigneur, dis seulement un mot, donne seulement un ordre. Donne seulement un ordre. Voilà un païen qui reconnaît la puissance, l'autorité de Jésus-Christ. Il a dit, on n'a pas besoin d'autre chose. Donne seulement un ordre. Dis seulement un seul mot. Et il explique, il fait le parallèle. Parce que lui aussi, il avait des hommes sous ses ordres. Il dit que moi, quand je dis à mes soldats, va, il va. Quand je dis à mes soldats, viens, ils viennent. Quand je dis à mes serviteurs, fais cela, ils font. Et alors, toi, tu es au-dessus de tout ça. Et je suis conscient que si tu dis seulement un mot, la chose va s'accomplir. Il a reconnu que son pouvoir de commandement ne pouvait pas se comparer à celui de Jésus-Christ. Il a compris cela. Son pouvoir de commandement ne pouvait pas se comparer à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le centurion, son pouvoir de commandement, ne consiste que à donner des ordres sur une centaine de personnes, ou sur 200 personnes, sur quelques hommes. Mais il a compris que Jésus était au-delà de tout cela. Il a reconnu que Jésus exerce son autorité, non pas sur quelques hommes seulement, mais sur tout ce qui existe, sur les visibles et sur les invisibles. Et lui, il a compris cela. Il a compris que son pouvoir, son autorité est au-dessus de moi. Moi, je peux commander quelques personnes. Mais lui, il commande sur tout ce qui existe. Il peut donner des ordres sur tout ce qui existe. Et cela s'accomplira. Oui. Ce militaire a compris que Jésus possède l'autorité divine. Il est le maître, qu'il est le seigneur des seigneurs et que tout l'univers est soumis à son autorité. Et Dieu merci ce matin, nous avons beaucoup parlé de la force, de l'autorité de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus-Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir comme nous l'avons chanté? La force se trouve en Jésus-Christ. Vous voulez marcher pur et triomphant? La force se trouve en Jésus-Christ. Vous voulez aller de l'avant? La force se trouve en Jésus-Christ. Ce militaire accomplit cela bien avant que le frère puisse composer ces cantiques, ces beaux cantiques que nous avons chantés. Parce qu'il a compris que l'autorité ne réside que sur Jésus-Christ. Dis seulement un mot et cela va s'accomplir. Ordonne seulement et cela va s'accomplir. Frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire par beaucoup de choses qui se disent à droite, à gauche, dans des YouTube, dans ceci, dans cela. Frères et sœurs, l'autorité se trouve en Jésus-Christ, dans la parole de Jésus-Christ. La puissance se trouve dans la parole de Jésus-Christ. Cette parole est puissante. Est puissante. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est venue vivre pleine de grâce et de puissance parmi nous. C'est Jésus-Christ la parole. Et cette parole, c'est cette parole-là que nous lisons, frères et sœurs. N'allons pas chercher ailleurs. Qu'on ne se fasse pas séduire par quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu qui a la puissance et pas autre chose. Ce militaire dit seulement un mot et cela va s'accomplir. Oui, le Seigneur n'a pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Il prend la foi de ces militaires comme un exemple pour tous ceux qui, dans tous les peuples, se tourneront vers lui, vers Jésus-Christ, avec confiance. Et la fin de ce passage nous dit que tous ceux qui se tourneront avec confiance, tous les peuples venus de tous les quatre coins du monde, seront aussi dans le royaume des cieux. Maintenant, nous qui étions jadis éloignés, païens, sans Dieu, sans espérance, Christ nous a rapprochés par son sang précieux. Et nous pouvons prendre, avoir part maintenant à cet héritage incorruptible. Voilà la grâce que notre Dieu nous a démontrée. Nous qui étions païens aux alliances de la promesse, nous qui croyons aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. L'amour que nous devons porter pour les autres, les fardeaux que nous devons porter pour les autres, l'humilité que nous devons manifester vis-à-vis de notre Seigneur quand on s'approche de notre Seigneur, la foi que nous devons avoir en lui, une foi véritable, que quand le Seigneur nous regarde, puisse dire que oui, vous avez la foi véritable en vous. Et reconnaissons l'autorité de Jésus-Christ, cette puissance qui se trouve dans sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.